Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Science publique, Michel Albert Gonti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science publique. Émission exceptionnelle aujourd'hui, en ce jour de fête du travail, nous recevons un chercheur qui a fait une découverte marquante, prix Nobel à la clé. Vos réactions sont vivement attendues sur le site de Science publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un prion et comment agit-il sur le cerveau ? Une découverte scientifique est un long parcours semé d'embûches. Elle requiert du talent, bien entendu, mais peut-être surtout des efforts considérables, une ténacité à toute épreuve et une confiance en soi hors du commun. Dans le livre qu'il publie chez Audi Jacob, Stanley Prusiner, prix Nobel de médecine en 1997, cite un auteur belge devenu trop rare, même s'il a obtenu lui aussi le prix Nobel, mais en 1911. Il s'agissait alors de littérature et cet auteur est Maurice Maeterlinck. Stanley Prusiner mentionne cette phrase de lui. « À tous les carrefours de la route qui mène à l'avenir, l'humanité a mis, contre chacun de nous, 10 000 hommes qui gardent le passé. » Le passé, pour Stanley Prusiner, c'est l'avant-prion, ce mot qu'il a inventé en 1981 et qui désigne la protéine infectieuse responsable de la tremblante du mouton et de la maladie de la vache folle, dont une épidémie s'est déclarée en 1996 en Grande-Bretagne. Cette pathologie touche l'être humain sous le nom de Creutzfeldt-Jakob. Stanley Prusiner est confronté par hasard à cette maladie du cerveau au début de sa carrière de médecin en 1972. Lorsqu'il décide de se consacrer à la recherche, il s'attaque aux causes de cette maladie neurodégénérative dont l'agent reste totalement mystérieux. S'agit-il d'un virus, d'une bactérie, d'un parasite ? Après des années d'efforts et le concours de nombreux collègues et de milliers de souris, le chercheur découvre que cet agent n'est autre qu'une protéine. Mais une protéine infectieuse, d'où le nom qu'il lui donne, un prion. Pour autant, un nom ne suffit pas pour imposer une découverte. Dans le cas du prion, c'est plutôt l'inverse. Stanley Prusiner écrit « Le train du prion avait quitté la gare et les chasseurs de virus de tremblante restaient sur le quai à crier « virus, virino et acide nucléique » aussi fort qu'ils pouvaient ». Qu'est-ce qu'un prion et pour quelle raison leur découverte a-t-elle été difficilement acceptée par la communauté de la recherche médicale ? Comment les prions agissent-ils sur le cerveau ? Quelles sont les pathologies concernées ? Et peut-on affirmer aujourd'hui que Parkinson et Alzheimer sont des maladies à prions ? Au-delà de la découverte des causes de ces maladies neurodégénératives, quelles thérapies sont envisageables ? Où en est la recherche actuelle sur les prions ? Et à quelle échéance pourrait-elle aboutir à des traitements ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans cette émission enregistrée le 24 avril 2015 à la Maison de la Radio, Stanley Prusiner, directeur de l'Institut des maladies dégénératives à l'Université de Californie San Francisco, prix Nobel de médecine en 1997, pour sa découverte des prions. Stéphane Haïk, co-directeur de l'équipe de recherche sur la maladie d'Alzheimer et les prions à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, l'ICM, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, est coordinateur du Centre national de référence française sur les prions. Et nous sommes également avec Jean Yvenot, médecin et journaliste, qui écrit pour Slate.fr et le blog Journalisme et Santé publique. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Science publique sur franceculture.fr. Stanley Prusiner, bonjour.
Hello.
Nous allons parler à la fois de votre découverte des prions, de leur place dans la recherche médicale aujourd'hui, ainsi que des perspectives thérapeutiques que l'on peut imaginer. Mais avant tout, pouvez-vous nous donner une définition de cette étrange protéine qu'est le prion ?
So, a prion is a protein, and it's a protein.
Le prion est une protéine.
That is able to change its shape.
Et c'est une protéine qui est capable de modifier sa forme.
There are a small number of proteins that become prions.
Il y a un petit nombre de protéines seulement qui deviennent des prions.
But these proteins that are capable of changing their shape.
Mais ces protéines qui sont capables de changer leur forme.
One more piece has to happen.
Ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait un autre événement.
Changed shape has to be able to propagate itself.
À savoir que cette nouvelle forme soit capable de se propager.
So the protein that is a prion.
Donc la protéine qui est un
prion
se multiplie dans la cellule,
which is already making the non-prion form of the or the precursor.
Utilise que la cellule produit déjà, c'est-à-dire la forme précurseur du prion, et puis transforme ce précurseur en prion. Le prion lui-même va donc déclencher en quelque sorte une réaction en chaîne, et on va avoir de plus en plus de prions qui vont se former.
Stops functioning,
jusqu'à ce que la cellule arrête de fonctionner ou meurt,
too many prions have accumulated.
Parce qu'il y a eu une trop grande accumulation de prions.
And in the beginning, there was only one protein that we knew about.
Au début, on n'avait identifié qu'une seule protéine capable de cela. C'était la protéine de la vache folle, de la tremblante du mouton ou de la maladie de Creutzfeldt-Jakob que l'on appelle PRP. Maintenant, on sait qu'il y a d'autres protéines, comme la synucléine, qui est responsable de la maladie de Parkinson et d'une autre maladie assez rare qui s'appelle l'atrophie multisystématisée. Et il y a également deux autres protéines, la bêta et la protéine tau, qui sont responsables de la maladie d'Alzheimer lorsque ces protéines se transforment en prions.
Très bien, merci beaucoup. On voit que cette protéine est tout à fait particulière. On va essayer de mieux comprendre comment elle se crée et puis aussi comment elle se développe. Stéphane Haïk, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez donc pour nous aujourd'hui la recherche française sur le prion. Quelle importance a pris aujourd'hui ce sujet en matière justement de recherche médicale ?
Alors, ça dépend si on parle juste du sujet du prion fait avec cette fameuse protéine du prion responsable de la maladie de la vache folle, etc. Ou si on parle de l'ensemble des protéines de type prion telles que les a décrits Stanley Prusiner, ce qui couvre un panel beaucoup plus large de maladies et d'équipes de recherche.
Vous-même, votre équipe à l'ICM, donc l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, se charge de quel type de recherche en somme ?
Alors, dans notre laboratoire, on étudie à la fois la maladie d'Alzheimer, comment ces peptides A-bêta entraînent une mort neuronale, quel est leur cycle cellulaire. Et l'autre partie du laboratoire dont je m'occupe plus particulièrement s'intéresse aux maladies à prions telles que la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et là, on étudie, on fait des recherches sur un certain nombre de sujets dont on pourra parler, qui touchent à la fois à la caractérisation de ces agents. Alors, description chez l'homme, à essayer de modéliser leur réplication de manière à fournir des outils pour comprendre leur propagation vers certains sites spécifiques du cerveau et des outils également utiles pour développer des outils diagnostiques ou une recherche à visée thérapeutique.
Très bien, on va revenir en détail sur ce que vous nous introduisez de cette façon. Jean-Yves Nau, bonjour.
Bonjour.
Donc vous avez suivi les travaux de Stanley Prusiner sur les prions, ainsi que la crise de la vache folle en 1996. Lorsque vous travaillez au journal Le Monde, à l'époque, la notion même de prion était mal perçue par la communauté scientifique et semble-t-il par les journalistes dont Stanley Prusiner se méfiait beaucoup à l'époque.
Oui, on peut dire que les médias généralistes français et je crois les médias généralistes un petit peu partout dans le monde ont pris conscience de l'existence du prion, ça n'a pas toujours été simple, à peu près à cette époque-là. Encore que le gouvernement français était inquiet déjà sur ces questions. Je me souviens que le ministre un des gouvernements précédents avait demandé un rapport sur les agents transmissibles non conventionnels. Ça avait un petit peu surpris, on ne comprenait pas pourquoi le politique s'intéressait à ces questions. Il faut dire que On parle de la maladie de la vache folle qui a démarré de façon tonitruante en 1996, mais la maladie précédente, c'est-à-dire la maladie animale, la fameuse vache folle, l'encéphalopathie spongiforme bovine, elle est apparue 10 ans plus tôt, en 1986. Or, c'était une nouvelle maladie, très spectaculaire. Tout le monde a en mémoire les images de ces bovins qui devenaient fous et qui mouraient dans des conditions assez spectaculaires et horribles. Mais pour autant, cette nouvelle maladie due à un nouvel agent pathogène, ce qui est quand même très étonnant et rare dans l'histoire, n'avait pas tellement intéressé les médias. On avait regardé ça comme quelque chose de vétérinaire. En revanche, en 1996, lorsque le gouvernement britannique a dit, dans des conditions sur lesquelles il y aurait beaucoup à redire, eh bien en définitive, ce prion est peut-être passé dans l'espèce humaine. Et il y aura peut-être quelques dizaines, centaines, milliers ou centaines de milliers de victimes de la même maladie, cette maladie neurodégénérative qui nous réunit aujourd'hui. Alors là, effectivement, ça a demandé un travail de formation journalistique continue assez rapide. Et c'est là qu'on a tenté d'expliquer au public, aux lecteurs, ce que pouvait être ce fameux prion. Avec peut-être une petite question qu'on pourrait poser d'emblée à M. Brésilère. À quoi sert-il lorsqu'il n'est pas pathologique? Puisqu'on le retrouve, si je me souviens bien, ce prion et le gène qui code pour ce prion, un petit peu partout dans le monde vivant.
Stanley Poisiner, peut-être, pour répondre à cette question.
So I think that functional prions, physiologic prions,
les
normal prions,
normaux, physiologiques, fonctionnels.
These prions are capable of turning a cellular process on and off.
Peuvent déclencher ou arrêter un processus cellulaire instantanément.
And so they don't need a nucleic acid.
Et ils n'ont donc pas besoin d'acide nucléique.
First messenger RNA synthesis,
ils n'ont pas besoin de la synthèse de l'ARN messager, de la synthèse des protéines, pour avoir cette réponse physiologique très rapide.
Et donc, je pense que là, that's some of the rationale that we've created around this. We really don't understand.
En fait, ce sont les fondements que nous supposons. En fait, on ne comprend pas tout.
But this new area of biology is.
Mais cette nouvelle ère de la biologie.
We try to imagine what it'll be like 25 years from now.
Nous amène à essayer de nous projeter peut-être dans 20, 25 ans d'aujourd'hui, mais je crois que ce sera quelque chose de beaucoup plus vaste. On n'a pas encore une idée très précise.
Alors peut-être pour comprendre également l'importance de cette découverte, Stanley Poisiner, peut-être faut-il expliquer les difficultés que vous avez eues à convaincre vos propres pairs, vos propres collègues, de l'existence de ce prion à l'époque où on cherchait justement les causes de cette maladie de Creutzfeldt-Jakob sur laquelle vous avez travaillé. À quoi attribuez-vous cette difficulté ?
I think the reason that it was so difficult to convince a very large number of people.
Je pense qu'il a été très difficile de convaincre beaucoup de gens.
Frederick Meissner first isolated DNA.
Ça nous fait remonter aux années 1860 lorsque l'ADN a été identifié et qu'on a compris avec le temps qu'il y avait quatre blocs qui le construisaient. Et puis on s'était dit aussi que c'était beaucoup trop simple cet ADN pour être un gène et que seule une molécule bien complexe comme une protéine avec 20 acides aminés différents pouvait être vraiment capable de faire le travail d'un gène. Donc, et cette idée, finalement, elle a complètement envahi le domaine de la biologie, de la médecine, jusqu'au début des années 40, où on a eu là une révolution avec le premier papier qui a expliqué qu'un gène s'était composé d'ADN. Et puis on a évidemment résolu la structure de l'ADN, la double hélice, et on a accumulé de plus en plus d'informations au cours des années 50, 60. Donc, lorsque l'idée du prion est arrivée, au début des années 80, les gens en avaient un petit peu assez de toute cette discussion sur c'est quoi un gène. Tout le monde était convaincu que c'était de l'ADN et que donc tous les micro-organismes, toutes les entités, les pathogènes, forcément, ils devaient comporter un petit bout d'ADN qui encodait. Et moi, je suis arrivée avec cette idée et cette découverte de ces agents qui se multipliaient, qui se propageaient de cellule à cellule, qui pouvaient être transmissibles. Et qui, ces agents-là ne comportaient pas d'ADN, que c'était juste de la protéine. Et donc, on a un petit peu souri, je dirais, qu'il y avait une certaine dérision face à mes propos et beaucoup d'intolérance parce que chacun était dans ses rails depuis si longtemps et seul un fou pouvait avoir une idée pareille.
Pour expliquer un petit peu la transformation mentale que cela représente, peut-être il faut préciser que une protéine n'a pas une vocation à se comporter un peu comme un être vivant, comme peut l'être un virus ou une bactérie. Et est-ce que c'est ça qui a fait que, à l'époque, il a été très difficile d'admettre que une simple protéine pouvait être un agent pathogène du style de celui d'une maladie comme Creutzfeldt-Jakob, Stéphanaïque?
Alors, on peut le voir comme cela. Mais pour les scientifiques qui travaillaient en biologie moléculaire, c'est au-delà du problème de l'être vivant, c'est plus la question de comment l'information biologique est codée. La grande originalité de l'hypothèse initiale proposée par Stanley Prusiner a été de dire une information biologique est codé non pas par un acide nucléique, mais par une structure, une conformation, une forme de protéine. Et qui plus est, cette information biologique, elle n'est pas simplement pour coder une petite fonction d'une cellule, c'est pour coder une information pathologique. Donc cette information spécifique d'une maladie va être codée, non pas par un gène avec une mutation, ça peut arriver aussi, mais par l'agrégation sous une forme, une conformation anormale d'une protéine. Et alors, pour terminer cette explication, non seulement cette protéine toute simple, juste en changeant de forme, codée pour une maladie, mais elle pouvait même coder sa forme pour plusieurs maladies. C'est ce qu'on appelle les souches de prions. Et donc, les gens ne comprenaient pas, notamment les virologues, pour qui des souches de virus différents sont codées par des variations dans l'acide nucléique, qu'ils soient un ARN ou un ADN, et ces virus s'adaptent en mutant leur acide nucléique et évoluent comme ça. Eh bien là, on avait des souches d'un agent pathogène différent, dont l'information biologique spécifique était codée par un état conformationnel de la même protéine.
Est-ce que ce n'est pas ça qui est très difficile à admettre, Jean-Yves Naud, que ça soit une forme qui puisse coder pour une maladie? Non.
Moi, en tout cas, ce que j'ai perçu et ce que je garde en mémoire, c'est que vos deux invités parlent de façon très diplomatique, mais vu depuis la tour de contrôle journalistique, si je puis dire, la vache folle et ses travaux fondamentaux qui précédaient l'émergence de la vache folle ont été une vraie explosion dans le monde de l'infectiologie d'une manière générale. C'est-à-dire qu'il y avait des châteaux forts, le château fort de la bactériologie, celui de la virologie, celui de la parasitologie, où l'ensemble des maladies infectieuses arrivaient via des parasites, via des virus, via des bactéries. Là, c'était l'équivalent d'une révolution copernicienne, si vous voulez. D'un seul coup, il n'y avait plus d'agent pathogène. L'agent pathogène était à l'intérieur de l'organisme vivant. C'était une protéine, M. Prusiner vient de dire, dont on ne comprenait pas très bien la fonction normale, mais qui, sous une autre configuration, devenait un agent infectieux équivalent à un virus. Mais avec des temps d'incubation beaucoup plus lents, avec des choses beaucoup plus... Donc, effectivement, ça a été un bouleversement, une révolution. Et les châteaux forts existants ont tout fait, comme toujours, comme ça avait été le cas lorsque le virus du sida était arrivé. Comme chaque fois qu'un agent pathogène nouveau arrive, les personnes qui sont en place font tout pour garder leur statut, essayent éventuellement d'envahir le territoire qui vient de s'ouvrir. Mais là, en l'espèce, il s'agissait d'un territoire inconnu et dont les propriétaires, entre guillemets, étaient M. Prusiner aux États-Unis, quelques-uns en France, Dominique Dormont, etc. C'était assez intéressant à observer.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albergonti.
Je vous rappelle que nous débattons aujourd'hui autour de la question « Qu'est-ce qu'un prion et comment agit-il sur le cerveau ?» avec nos invités, Stanley Prusiner, prix Nobel de médecine en 1997 pour sa découverte des prions, Stéphane Haïk, co-directeur de l'équipe de recherche sur la maladie d'Alzheimer et les prions à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, l'ICM, et Jean Yvenot, médecin et journaliste scientifique. On a essayé de cerner un petit peu ce qu'est le prion, c'est tellement extraordinaire et mystérieux qu'il est difficile même d'acquérir cette information. Et on peut se poser la question déjà, Stanley Prusiner, est-ce que les prions n'existent que dans le cerveau, finalement, de l'être humain?
No. There are prions throughout all of eukaryotic life. Now, when I say eukaryotic life,
des prions dans toute la vie eukaryote, et j'exclus les bactéries, mais les levures, par exemple, les champignons, jusqu'à l'homme. Est-ce qu'on les trouvera un jour dans les bactéries? Je ne sais pas. Les prions, ils sont partout, pas seulement dans le cerveau. Et comme on l'a dit au début, il y a des maladies à prions. Et puis, il y a des prions fonctionnels ou entre guillemets normaux et qui sont responsables de processus très importants. On est en train de s'intéresser de plus en plus à ces prions normaux, entre guillemets, à mieux comprendre comment ils fonctionnent, ce dont ils sont responsables. Et ça commence à modifier notre vision des choses et notre définition qui était très étroite, avec des critères très, très spécifiques pour les prions. Donc là aussi, c'est un nouveau bouleversement. Parce qu'on change de point de vue et on s'intéresse à des maladies comme l'Alzheimer ou le Parkinson, où les prions ne semblent pas être aussi infectieux, entre guillemets. Ils sont un petit peu différents, tout comme les prions normaux sont un peu différents. Donc il faut qu'on ait un esprit ouvert et qu'on essaye d'avoir une pensée plus horizontale, parce que on perd, sinon, cet élan, si on commence à avoir cette compartimentalisation. Alors, Stéphane va avoir évidemment une vision différente de la mienne, peut-être, et c'est important que tout le monde comprenne comment il se positionne. Mais moi, j'ai tendance à privilégier cette approche beaucoup plus globale, parce que ça va un peu dans tous les sens, c'est quelque chose qui explose.
Alors Stéphane Haïk, c'est là que ça se complique, même si jusqu'à présent ce n'était pas particulièrement simple, mais quand on parle de prions normaux, comme vient de le faire Stanley Prusiner, on a du mal à suivre, parce que le prion est défini comme une protéine infectieuse, donc anormale. Comment peut-il être normal, Stéphane Haïk?
Alors, c'est là où un glissement sémantique opère. Donc, initialement, le prion, on va dire, infectieux classique, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, a été défini comme une particule protéique infectieuse. Là, son changement de conformation entraînait la formation d'un agent transmissible qui pouvait se propager et entraîner une maladie chez un individu. Et quand on prélevait un échantillon de cet individu, en général du système nerveux central, et qu'on l'inoculait à un autre individu, donc ça dans les formes expérimentales, quand il y avait contamination pour les formes, par exemple, iatrogènes, eh bien, on induisait cette maladie chez ce sujet. Il y avait infection d'un sujet à l'autre.
Donc, contagion.
Donc là, on est dans le prion, on va dire, pathogène au sens infectieux du terme. Alors, les maladies à prion de type maladie de Creutzfeldt-Jakob sont essentiellement non infectieuses au sens où les cas apparaissent spontanément sans qu'il y ait eu exposition à une contamination par un prion.
Donc c'est l'organisme lui-même, les prions qui sont à l'intérieur de cet organisme qui se transforment, puisque là il s'agit d'un problème de forme,
spontanément,
et deviennent infectieux.
Et deviennent pathogènes. Donc il y a, on va dire, 85% de formes spontanées qu'on appelle des maladies de Creutzfeldt-Jakob sporadiques, parce qu'on n'en retrouve pas la cause. Il y a quasiment 15% des autres formes qui sont des formes génétiques. Donc là, il y a une hérédité avec une mutation qui se transmet de génération en génération dans le gène codant pour ce précurseur, la protéine du prion, ce qui va favoriser sa conversion spontanée au bout d'un certain nombre d'années. Et plus le sujet va vieillir, plus il aura de risques de développer cette maladie. Enfin, on a les maladies de Creutzfeldt-Jakob qu'on appelle infectieuses, qui sont liées à une exposition à un prion exogène.
C'est-à-dire extérieur.
Extérieur à l'individu. Donc ça peut être une injection d'une préparation contaminée, comme ça a été le cas malheureusement pour les formes secondaires à un traitement par l'hormone de croissance extractive. Ça peut être le cas en cas de greffe d'une dure mère contaminée. Et ça a été le cas pour les formes qu'on appelle la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui sont les formes secondaires à une contamination par l'agent bovin, lui-même responsable de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Donc il y a eu quelques petites épidémies chez l'homme de ces maladies de Creutzfeldt-Jakob infectieuses. Dans le règne animal, on a de façon plus prépondérante des formes infectieuses, souvent épidémiques, de maladies à prion de type Creutzfeldt-Jakob, pour faire court. Qu'on n'appelle pas Creutzfeldt-Jakob, qu'on appelle encéphalopathie bovine, encéphalopathie transmissible du vison, maladie du dépérissement chronique, tremblante du mouton. Alors, par exemple, l'encéphalopathie bovine a eu un mode épidémique majeur, avec des centaines de milliers de cas, voire millions de cas en Grande-Bretagne. Donc, ces agents prions infectieux sont en général spontanés, apparaissent spontanément, mais peuvent induire des formes infectieuses. Alors, ce qu'on appelle prions normaux, parce que pour finir, il y a deux types de prions, si vous voulez, qui ne sont pas des encéphalopathies spongiformes, qui ne sont pas liées aux encéphalopathies spongiformes. Il y a des prions normaux dans le sens où ils ont une fonction physiologique, puisqu'on a décrit des protéines qui ont des domaines capables de s'agréger comme des protéines du prion, qui ont des fonctions physiologiques, par exemple dans le neurone, impliqué par exemple dans la mémoire à long terme. Le maintien de la mémoire à long terme, l'état d'agrégation maintient la protéine active et ça permet de stabiliser les synapses créées pour entretenir le souvenir. Donc ça, c'est un prion normal, non infectieux, disons, physiologique. Et vous avez les prions normaux, qui ne sont pas, disons, infectieux, mais qui sont associés à une maladie. Par exemple, le peptide A-bêta, la protéine tau dans la maladie d'Alzheimer.
Bon, j'espère avoir été clair. De simplification n'a pas forcément abouti à une clarté lumineuse. Jean-Yves Nau, on a l'impression, quand on entend parler de la création ou de l'apparition de ces maladies, et en particulier donc à partir de ces prions qui sont produits par le corps lui-même et non pas transmis dans certains cas, que ce processus rappelle celui du cancer dans la mesure où c'est quelque chose qui se produit sans justement l'intervention extérieure au corps humain.
Alors là, c'est un parallèle très, très complexe, très risqué. Personnellement, je ne peux pas m'engager sur un thème comme celui-là. Mais à bien écouter ce qui se dit autour de cette table, me revient en mémoire une question qui était omniprésente chez moi pendant toute l'époque de 96 à, je sais pas, à 2000, où vraiment on phosphorait beaucoup sur ces questions. Ne parlons pas de tout ce qui vient d'être dit sur les prions, etc. Mais restons sur l'émergence du prion en tant que phénomène épidémique et donc médiatique. Il y a eu, on ne va pas en reparler, la maladie de la vache folle. Très bien. Il y avait avant, quelques années avant, la maladie du courroux. On est très loin, on est dans l'hémisphère sud, et c'est un autre prix Nobel qui a travaillé la question, qui s'appelait Gaj-Duzek. C'était à l'époque des gens qui, dans les rites funéraires, consommer des fractions du cadavre du défunt proche et en particulier le système nerveux central. On a découvert, là je répète, c'est toujours des très longues durées d'incubation, donc c'est toujours difficile de faire le lien entre l'injection ou la contamination et les symptômes. Donc les gens mouraient à nouveau de maladies neurodégénératives. Et puis ensuite, il y a eu l'émergence de la maladie chez les vaches. Et on a postulé, je crois qu'on a pratiquement démontré, que c'est parce que ces vaches avaient été transformés en animaux carnivores. Ils restaient des herbivores, mais on leur donnait des cadavres qui avaient été transformés en farine de viande et d'os. Et donc est arrivé tout un discours très écolo à l'époque en disant « Voilà, nous avons la preuve que nous n'avons pas respecté la mère nature et c'est parce que nous avons transformé des herbivores en carnivores que ce drame est arrivé ». On a fait la même réflexion sur le courroux en disant « C'est quand même pas des comportements tout à fait chrétiens que de consommer le cadavre du défunt ». Et moi, la question que j'ai envie de poser à M. Prusinert, c'est est-ce que lui, avec la somme des travaux qu'il a fait sur le sujet, est-ce qu'il pense que de près ou de loin, c'est parce que l'homme ne respecte pas les grandes règles de la nature que ces phénomènes pathologiques émergent?
Stanley Prusinert.
No. I think these diseases
non, are je ne pense pas.
The infectious forms of these diseases.
Les formes infectieuses de ces maladies ne constituent qu'une proportion très mineure. Si on s'intéresse par exemple à la maladie de Creutzfeldt-Jakob en France, je crois qu'il y a 60 millions d'habitants en France à peu près, si je ne me trompe pas. On a à peu près 50 cas par an, et ce sont des cas sporadiques, comme Stéphane l'a défini, et peut-être qu'il y a 10 cas de la forme génétique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Avec l'épidémie de la vache folle, il y a eu des cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob, de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, mais on n'a pas été face à une épidémie chez l'homme. Alors, évidemment, il y a eu des cas en raison de l'hormone de croissance. Il y a eu un plus grand nombre de cas en France de ce type, mais c'est important de faire la différence, comme Stéphane l'a dit, entre ces cas spontanés, sporadiques, et les cas génétiques hérités. On ne sait pas pourquoi certaines formes de maladies, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sont très rares, et d'autres formes, comme la maladie d'Alzheimer, sont beaucoup, beaucoup plus fréquentes. On ne sait pas non plus pourquoi certaines maladies à prion, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ont un temps d'évolution très rapide. En 6 mois, le patient décède, alors que pour la maladie d'Alzheimer, en général, ça prend à peu près 10 ans, 25 ans dans la maladie Parkinson, et c'est aussi à peu près 10 ans dans l'atrophie multisystématisée. Donc on se trouve face à un très large spectre qu'on ne comprend pas pour l'instant. Mais on a toutes ces données qui convergent vers le même point. point, à savoir que ce sont des maladies liées aux protéines qui changent de forme, et lorsqu'elles changent de forme, elles s'autopropagent.
Est-ce qu'aujourd'hui, Stanley Prusiner, vous pouvez affirmer, parce que c'est ce qui transparaît dans vos propos, que les maladies neurodégénératives que vous avez citées, Alzheimer ou Parkinson, sont bien liées et provoquées par un prion?
So, I don't want to say that they're linked and provoked. I want to say they are prion diseases.
Je veux pas dire qu'elles soient provoquées ou liées au prion, mais ce sont des maladies à prion.
These are just different diseases caused by different proteins.
Simplement des pathologies différentes provoquées par des protéines qui se transforment en prion. Alors pourquoi est-ce que c'est important?
We really care about one thing. Or at least I care about one.
C'est important parce que ce qui nous occupe, en tout cas moi, en tant que neurologue de formation, c'est la mise au point de traitements pour ces pathologies, parce que il est assez tragique de voir que l'industrie pharmaceutique n'a pas réussi à produire un seul médicament depuis 30 ans qui puisse ralentir ou arrêter une maladie neurodégénérative. Et je crois parce qu'ils n'ont pas, ils se sont pas intéressés au point le plus intéressant, c'est-à-dire la transformation et la conversion de la protéine normale en prion.
Alors,
c'est vrai que certains traitements contre l'Alzheimer essayent d'empêcher la fabrication de cette protéine, mais c'est une approche qui n'a pas porté ses preuves, et il n'est donc pas étonnant. En tout cas, que pour la maladie d'Alzheimer, on n'ait pas vraiment fait beaucoup de progrès. Mais je pense que tant qu'on a cette approche un petit peu de saucissonnage du problème, on ne va pas avancer. Il faut, d'une manière conceptuelle, essayer d'avoir cette approche globale. Beaucoup, justement, sont contre cela et veulent maintenir ces compartiments. Mais moi, peut-être que je suis peut-être plus un hérisson qu'un renard dans ce sens-là. Si je me compare à un animal, je pense que quand on, justement, on regroupe les choses, on peut faire des essais croisés et plusieurs fois.
Jean-Yves Nau.
J'ai beaucoup apprécié un tout petit passage de votre livre. J'ai apprécié votre livre dans son ensemble, mais en particulier un passage qui est à la page 302 sur cette question. Vous dites quand même, mais je devais être honnête. Alors que l'Aricept, c'est un médicament entre guillemets anti-Alzheimer, alors que l'Aricept et ses copies génèrent des revenus d'environ 3 milliards de dollars par an, de tels médicaments ne retardent pas l'inexorable progression de la maladie d'Alzheimer. Donc vous êtes quand même très critique avec les quatre grandes firmes qui produisent des médicaments anti-Alzheimer, dont on sait qu'ils sont inefficaces, qu'ils sont potentiellement dangereux et qui sont en France remboursés par la Sécurité sociale.
Des Prusiner pour répondre à, sur ce point.
Well, it's not just Aricept.
It's also L-Dopa. And all the Parkinson's drugs. C'est aussi la L-Dopa et tous les médicaments que l'on prescrit aux malades atteints de Parkinson.
Is John Paul II, the Pope.
Et je crois que le meilleur exemple, peut-être, c'est Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II. On sait très bien que Jean-Paul II a eu sans doute les meilleurs traitements possibles, des médecins du monde entier, pas tous catholiques, qui se sont penchés sur son cas. Certains de mes amis juifs sont allés au Vatican.
It's clear that these drugs treat the symptoms.
Et il est évident que ces médicaments traitent les symptômes et pas les causes.
L'Aricept,
c'est la même chose que le L-Dopa de ce côté-là. Et ce qui est vraiment dérangeant, c'est de voir des gens qui sont impliqués dans le capital risque, et certains de mes amis sont venus voir en me disant, si tu trouves quelque chose qui ressemble à un nouvel Aricept, tu vas devenir riche. Et j'ai répondu, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux trouver un médicament qui guérisse la maladie. Puis de toute façon, si j'étais extrêmement riche, je ne vois pas bien ce que je ferais avec tout cet argent. Donc c'est très important de bien avoir cela en tête, de bien le comprendre, parce qu'on a besoin de médicaments efficaces.
France Culture, Science Publique, Michel Albergonti.
Nous débattons aujourd'hui de la question « Qu'est-ce qu'un prion et comment agit-il sur le cerveau ?» avec nos invités Stanley Prusiner, prix Nobel de médecine en 1997 pour sa découverte des prions, Stéphane Haye, co-directeur de l'équipe de recherche sur la maladie d'Alzheimer et les prions à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et Jean-Yves Naud, médecin et journaliste scientifique. Stéphane Haye, la question là est brûlante évidemment, c'était forcément sur ce thème que l'on devait finir l'émission, les thérapies. À partir du moment où une cause a été bien établie pour des maladies qui, alors que, évidemment, quand c'est la maladie de Kossel-Jacob, ça ne concerne pas grand monde, mais ce n'est pas du tout le cas pour la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Et on sait qu'il n'y a pas de médicaments. Tous ces travaux montrent que l'on comprend les mécanismes. Que se passe-t-il ?
Alors, je dirais que ce qu'a dit Stanley Prusiner est très important. La compréhension du mécanisme prion, de l'histoire naturelle dans ces maladies de type Alzheimer, Parkinson et autres maladies neurodégénératives est un événement fondamental, fondateur pour plusieurs décennies de recherche sur ces pathologies-là. Sur ces dernières années, on a vu un corpus de résultats montrant qu'effectivement les protéines impliquées dans ces maladies se comportaient comme un prion, s'agréger, se propager, permettaient d'expliquer la dissémination progressive de ces lésions dans le système nerveux central qui est responsable de l'aggravation progressive des patients. Donc ça, c'est un événement important. Dans son livre, que j'ai également beaucoup apprécié, Stanley Prusiner fait référence à une conférence à Paris à laquelle j'ai assisté et où effectivement un grand nombre d'équipes de premier plan ont confirmé ces phénomènes avec une convergence de résultats, de méthodes tout à fait spectaculaires qui vraiment emportaient la conviction sur le fait que ces mécanismes sont fondateurs dans la dissémination et l'aggravation des lésions et donc des patients.
Donc, s'il n'y a pas de traitement, ça veut dire que malgré la compréhension dont vous venez de parler, on n'arrive pas à interagir avec ce phénomène.
Alors, jusqu'à présent, donc ça c'est un phénomène nouveau qui date de quelques années. On connaît mieux ce mécanisme dans les maladies à prion, de type Creutzfeldt-Jakob, qu'on connaît depuis plus longtemps. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de thérapeutique efficace dans ces maladies. Il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été menées, qui ont conduit à l'identification de molécules thérapeutiques qui marchaient en fait dans des modèles, mais qui utilisaient des agents, des prions, qui étaient plutôt des prions d'origine animale. Et il s'est avéré que les molécules efficaces sur ces agents-là n'étaient pas forcément efficaces sur les prions humains, puisqu'il y a un effet spécifique de souche de l'agent thérapeutique, puisqu'en général, il va viser ce phénomène de conformation. Et comme ce phénomène peut dépendre de l'espèce, eh bien, un prion qui va marcher sur les cervidés ne va pas forcément marcher chez l'homme. Et on a au laboratoire, par exemple, des résultats montrant que même au sein des souches humaines, certaines molécules ont une efficacité qui va varier selon la souche. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est d'obtenir des modèles qui répliquent les agents humains et des modèles, si possible, rapides. Et ça, on n'en a pas pour l'instant beaucoup, mais des progrès ont été récemment accomplis. La troisième grande difficulté, c'est le fait que c'est une maladie qui évolue extrêmement rapidement. Et quand on fait le diagnostic de maladie de Creutzfeldt-Jakob, le patient a déjà un certain nombre de lésions cérébrales qui ont dépassé le seuil d'expression clinique avec une grande quantité de prions anormales qui font que intervenir à ce moment-là est extrêmement compliqué. Donc il va falloir essayer de développer des outils permettant un diagnostic plus précoce de la maladie.
Stanley Prusiner, ce qu'on n'arrive pas à bien saisir, c'est si vous considérez que c'est un problème aujourd'hui de recherche qu'il faut poursuivre, ou bien est-ce que c'est un problème industriel aussi, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique serait partie sur de mauvaises pistes et aujourd'hui ne serait pas capable de changer de route. Quelle est la cause qui vous paraît la plus importante en matière de, pour expliquer l'absence de thérapie aujourd'hui de ces maladies neurodégénératives?
So, I think that the biggest problem in developing treatments is that we have no precedent.
Le plus gros problème, je pense, c'est qu'il n'y a pas de précédent face à ces maladies neurodégénératives. Donc, ça veut dire que pour développer des traitements, des médicaments, ça veut dire qu'on doit développer des médicaments qui n'ont jamais encore existé. Beaucoup de médicaments sur le marché ne sont que des « copies », entre guillemets. Donc, on l'a vu. Par exemple, pour les anticancéreux. Alors, ce qui est bien, c'est que parfois, ça donne un nouveau traitement pour d'autres formes de cancer. Ce n'était pas forcément prévu à l'origine, mais c'est un des bénéfices secondaires, en quelque sorte. Donc, je ne suis pas contre cela. Mais ces médicaments qui sont des têtes de série, en quelque sorte, exigent beaucoup de coopération entre la recherche et l'industrie pharmaceutique. Et ça coûte très cher, c'est des milliards de dollars avant d'avoir quelque chose qui soit au niveau préclinique. Avant même les essais chez l'homme. Donc, on est là dans une situation où l'industrie pharmaceutique n'a peut-être pas les bonnes personnes. Ils ont réduit la voilure, ils ont renvoyé beaucoup de chimistes, et puis il y a beaucoup de médicaments qui tombent dans le domaine public, qui n'ont pu leur prouver. Donc on a besoin d'inventer un nouveau paradigme où on a le meilleur de la recherche universitaire et le meilleur de l'industrie pharmaceutique pour les faire coopérer et pour les faire fusionner. Et à quoi ça va ressembler, on ne sait pas trop. Bon, c'est ce qu'on essaye de faire à San Francisco, donc on a une petite idée de la forme que ça pourrait prendre.
Jean-Yves Nau.
Monsieur Prusiner, avant Fleming, on n'a rien contre les bactéries. On n'a pas de précédent. On ne sait pas comment lutter contre ces bactéries pathogènes, la tuberculose, etc., etc. Or, Fleming arrive et sérendipité ou pas, tchouk. Est-ce qu'on peut imaginer le même scénario pour les maladies à prion?
Well, what was great about Fleming was that
ce qui a été fantastique dans le cas de Fleming, c'est qu'il avait des champignons sur une lame.
And the penicillin killed
et que la pénicilline a tué les bactéries. Alors que ces maladies auxquelles nous sommes confrontés, elles sont beaucoup plus difficiles à cerner. Et donc je ne pense pas qu'en abandonnant une lame sur un rebord de fenêtre, on puisse trouver la réponse.
Mais
nous avons à notre disposition des outils très sophistiqués, des robots, des microscopes ultra performants, des modèles animaux de plus en plus affinés et beaucoup d'expérience dans la fabrication de médicaments de manière très rationnelle. Donc je crois qu'on a toute la science. On a besoin d'un processus, on a besoin de réunir ce qu'il y a de meilleur dans le monde universitaire et de la recherche et le monde pharmaceutique pour mettre au point ces médicaments tout à fait originaux.
Stéphane Haïk.
Je voudrais poursuivre la métaphore sur les maladies infectieuses en parlant également du VIH, puisque jusqu'à présent, les maladies neurodégénératives, même rapides comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, on les approchait avec un œil neurodégénératif, c'est-à-dire qu'on va donner un comprimé par jour, on va prendre le temps de faire le diagnostic. Peut-être qu'une approche un peu plus urgente, active, plus dans le rush, avec un diagnostic rapide, une polythérapie, comme pour le VIH, puisque maintenant on a des mécanismes. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour le VIH. On a pu attaquer la réplication du virus par les différents mécanismes qu'il utilisait pour se répliquer dans la cellule. Eh bien, faire la même chose, être plus agressif et avoir une action attaquant le problème de la réplication de ces protéines par différentes voies.
Stanley Fusiner, sur cette question.
Well, I think, you know, if we look back at AIDS, we had a tremendous leg up.
En ce qui concerne le sida,
the leg up was Richard Nixon, because Richard Nixon started the war on cancer.
Quand même cette avancée déclenchée avec le plan contre le cancer par Richard Nixon. Et lorsque le sida est arrivé, on a commencé à voir que le virus responsable du sida était justement le frère de ces virus tumoraux. Et donc ça, c'était le leg du plan cancer. Et donc on avait déjà pas mal d'avance sur la façon de fabriquer des antiviraux. Bon, ce n'était pas parfait, mais lorsqu'on a enfin identifié le virus et qu'on a su ce que c'était au milieu des années 80, là, on a pu déclencher la réponse tout de suite. Et ça nous a donné une avance incroyable. On n'est pas dans ce cas-là. On démarre de rien. On repart finalement au moment de la prise de fonction de Richard Nixon et qu'il déclenche le plan cancer.
Est-ce que ça signifie, Stanley Fusiner, qu'aujourd'hui vous considérez qu'on ne met pas les moyens et également qu'on n'a pas la méthode, c'est-à-dire par exemple cette collaboration entre le monde universitaire et les firmes pharmaceutiques, mais aussi peut-être les moyens financiers qu'avait utilisé ce genre de grand plan anti-cancer par exemple? Est-ce que c'est la raison qui vous paraît être le blocage aujourd'hui? Est-ce que c'est une raison plus fondamentale d'ignorance qui resterait associée à ces maladies à prion?
Well, we clearly are not putting enough money into this.
If you look
at what Nixon did, he moved the cancer budget to more than $1.5 billion.
A fait passer le budget contre le cancer de 1,5 million à 3 milliards, et puis ensuite à 6 milliards. Et là, je parle du NIH, donc de l'Institut pour la santé américain. Mais pour l'Alzheimer, on est passé de 250 millions à 500 millions de dollars. Alors que la maladie d'Alzheimer, ça a l'ampleur du cancer. On a des milliers de gens qui en meurent, tout comme du cancer. Donc on a besoin d'investir davantage. On l'a fait pour le cancer, mais il faut investir encore plus dans la maladie d'Alzheimer parce que les gens vivent plus longtemps et on a donc un nombre de patients qui est en croissance. Et donc, il faut plus de fonds publics. Je crois que l'opinion publique le demande. Souvent, les hommes politiques pensent que c'est un petit peu de l'argent comme ça, que l'on peut bouger d'une poche à l'autre. Mais le budget du NIH a baissé de 20%. Même si c'est resté stable en dollars constants, des dollars de l'année 2000, mais le budget a baissé.
Est-ce que vous-même, Stanley Fusiner, vous travaillez aujourd'hui avec l'industrie pharmaceutique ou est-ce que les ponts sont coupés?
Yes, we have a collaboration with a superb Japanese drug company, Daiichi Sankyo.
Daiichi Sankyo, une société japonaise. Et je crois que ça fait une grande différence dans ce qu'on peut faire.
Un mot de Stéphane Haïk, peut-être, pour terminer, parce qu'on approche de la fin de l'émission, Stéphane Haïk.
Juste un mot pour aussi soutenir la recherche fondamentale en dehors des grands axes de type Parkinson, Alzheimer, puisque qui aurait pu penser en finançant des recherches de Stanley Prusiner dans les années 80, l'ampleur des conséquences de ces découvertes. Et il n'était pas dans la droite file d'un horizon sociétal, etc. Il faisait des recherches très atypiques ou regardées comme très atypiques à l'époque. Donc je pense que financer
le
financement du fondamental, parce que c'est peut-être de là que viendra la lumière thérapeutique.
Merci beaucoup. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Stanley Prusiner, Stéphane Haïk et Jean-Yves Naud d'y avoir participé. Merci également à Caroline Mandron qui a assuré l'interprétariat de cette émission. Vous trouverez sur le site les références du livre dont on vous a parlé aujourd'hui et qui est intitulé « La mémoire et la folie, la découverte des prions, un nouveau paradigme biologique ». Livre publié par les éditions Audit Jacob. Sur notre site, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an et bien entendu nous faire part de vos réactions et commentaires. La semaine prochaine, vendredi 8 mai, nous changerons radicalement de sujet avec l'émission mensuelle que nous réalisons en partenariat avec le magazine Science et Vie. Face au développement des villes, on peut se demander comment les réinventer afin de mieux maîtriser leur croissance. Mais pour cela, existe-t-il des lois universelles de la dynamique des cités? Nous en débattrons avec Marc Barthélémy, Renaud Lambiotte et Vincent Louiriga. Sciences Publiques, Lise Combe, Manon Houssin, Marie Dalquier, Michel Alberganti. Nous vous laissons en compagnie des Bonnes Feuilles. Merci à tous et excellent après-midi sur France Culture. Come on, destruction. Come on, grief. Jezebel, you're gonna...